ce matin donc lire dans Genèse 37, c'est le début de l'histoire de Joseph. Donc, on va commencer par la lecture. Hein, donc, Genèse 37, et les premiers versets à partir du verset 1. Jacob s'établit au pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bilha et de Zilpa, femmes de son père. Ils rapportaient à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous, alors ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit, « En effet, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu, nous étions en train de lier des gerbes dans les champs, soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, « Prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner ?» Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Il eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. « Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. » Quand il raconta ce rêve à son père et à ses frères, son père le réprimanda et lui dit, « Qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda la chose en mémoire. L'histoire de Joseph est peut-être parmi les récits les plus connus de l'Ancien Testament, mais je trouve qu'il est bien d'y revenir de temps en temps parce qu'elle est très intéressante à bien des égards, mais en particulier par l'éclairage qu'elle jette sur l'action du Seigneur dans la vie d'une personne pour la préparer à trouver sa place dans le plan de Dieu. Et nous découvrons dans l'histoire de la vie de Joseph comment d'expérience en expérience, d'épreuve en délivrance, Dieu dirige les événements pour amener quelqu'un vers la maturité de la foi. Alors c'est une histoire qu'on raconte souvent à l'école du dimanche. Hein. C'est une histoire qu'on raconte beaucoup aux enfants. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un conte de fées. C'est un récit de faits réels, des choses qui se sont vraiment passées. C'est un récit tout à fait lucide par rapport aux personnages qui sont évoqués. Nous n'avons pas ici un personnage qui ne pouvait pas faire de mal, puisque nous savons de toute façon que ça n'existe pas parmi les êtres humains. Et le texte va le décrire tel qu'il était, avec ses défauts, avec ses difficultés. En cela, bien sûr, il nous rejoint. Nous sommes aussi des êtres comme lui. Et au début du récit, Joseph a 17 ans. Aujourd'hui, on dirait un grand adolescent. Pas tout à fait majeur de nos jours. Et déjà, il avait pas mal de problèmes. Des problèmes en particulier avec les autres membres de sa famille. Il avait, comme vous l'avez entendu dans la lecture, des relations, on va dire, conflictuelles avec ses frères. Nous allons donc, ce matin, essayer de prendre à cœur le début de l'histoire de Joseph pour notre édification. Et je commence donc par Joseph tel qu'il nous est présenté dans le texte. Non pas tel qu'on pourrait l'imaginer ou le fantasmer, mais tel qu'il était en lui-même à ce moment-là. Donc, Joseph tel qu'en lui-même. Il y a plusieurs choses, il y a trois choses en particulier qui sont soulignées dans le texte. Pour commencer, une première chose, c'est que Joseph était rapporteur. C'est-à-dire qu'il est ce qu'on appelle familièrement un cafard. D'ailleurs, si vous regardez dans le dictionnaire, les synonymes de rapporteur, dans la langue française, il y a une liste extrêmement longue. Mais voilà, c'était quelqu'un qui rapportait les mauvais propos de ses frères. Alors, ça explique un peu pourquoi ses frères ne l'aimaient pas. Hein, évidemment, il ne faisait rien pour cela. Selon la sagesse d'Israël, qu'on découvre plus loin dans la Bible, dans le livre des Proverbes, celui qui couvre une faute recherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses paroles divise les amis. Et ici, on pourrait dire aussi divise la famille. Et c'est ce que Joseph a fait. La famille était déjà très divisée du fait que Jacob avait 4 femmes qui se comportaient en rivales, hein, qui se tiraient dans les pattes, comme on dit. Et cette famille est devenue encore plus divisée par l'action de Joseph. Combien de familles et combien même d'églises ont été déchirées par des racontars, par des choses qu'on a racontées les uns sur les autres. Combien il est facile aussi de semer la zizanie de cette façon-là. Mais c'est faire le travail de notre adversaire, hein, celui qu'on appelle le diable, le diviseur. Certains d'entre nous ont peut-être souffert d'avoir un petit frère ou une petite sœur du genre de Joseph. Hein, ça, là aussi, parfois, on se voit dans les histoires hein, qui nous sont rapportées dans la Bible. En tout cas, rares sont ceux qui n'ont jamais fait l'objet de rapportage. Hein. C'est une expérience commune. Et le problème de rapporter est aggravé par le fait que très peu de personnes sont capables de répéter fidèlement ce qu'elles ont entendu ou de décrire fidèlement ce qu'elles ont vu. Hein, on a tous connu, je pense, la tentation d'exagérer un peu, hein, peut-être pour corser un peu le récit et mieux impressionner ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, il me semble qu'on peut être rapporteur sans volonté consciente de nuire à ceux dont on parle. Simplement pour essayer de dire, ben moi je sais plus que les autres. Hein. Si vous saviez ce que je sais, je connais ce que les autres ne connaissent pas. Alors, parfois on répète des choses qu'on ferait mieux de taire. Hein. Comme dans le proverbe que j'ai cité, il est parfois mieux de taire des choses qu'on sait peut-être, qu'on croit savoir, mais qui n'ont pas été mises sur la place publique. C'est peut-être aussi quelque chose comme le rapportage dont on dit parfois, mais est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que c'est vraiment mal? Alors, j'étais en train de relire l'Épître aux Romains, hein, quand je lisais en même temps le livre de la Genèse, et dans le premier chapitre de cet Épître aux Romains, il y a deux versets, vous pouvez les retrouver, les versets 29 et 30, où Paul parle de la mentalité réprouvée de ceux qui, n'ayant pas jugé bon de connaître Dieu, ont été livrés au mal. Alors c'est une liste d'horreur, on pourrait dire. Il est question de perfidie, il est question de meurtre, il est question de vice. On dit, ben, c'est pas moi. Mais ça continue par ce que Paul ajoute. Ils sont aussi rapporteurs et médisants. Et donc là, on doit commencer à prendre la mesure du fait que ce n'est pas quelque chose que Dieu veut voir dans la vie de ses enfants. En tout cas, l'apôtre dit, ce n'est pas quelque chose qui doit caractériser celui ou celle qui veut marcher avec Dieu. Mais Joseph, à 17 ans, était rapporteur. c'est la première chose qu'on apprend à son sujet. Et ensuite, on apprend qu'il était le préféré, le chouchou de son père. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. C'est extraordinaire quand on pense que Jacob lui-même avait souffert parce que son père, Isaac, lui avait préféré Ésaü. Apparemment, il n'a rien appris de son expérience dans sa jeunesse et il répète cette même erreur avec ses enfants. Et en reportant toute son affection sur le fils de Rachel, qui était aussi sa femme préférée. J'ai dit qu'il avait quatre femmes, mais parmi les quatre, il y avait aussi une préférée. C'était Rachel qui était la mère de Joseph. Et Jacob, finalement, a approfondi lui-même les divisions au sein de sa famille. Il a attisé les querelles. Alors, on n'est pas étonné de découvrir dans le Nouveau Testament que Jacques, dans son épître, en parlant d'ailleurs en premier lieu de la vie d'Église, nous dit « Gardez-vous de toute forme de favoritisme. » C'est dans le contexte quelque chose que Jacques applique à comment on accueille ceux qui entrent dans l'Église, ce que Dieu attire, comment on les accueille et comment on les regarde par rapport à leurs habits, à leur apparence. Mais c'est gardez-vous de toute forme de favoritisme. Donc c'est à appliquer aussi dans tous les domaines, donc y compris dans nos familles, parce que nous pouvons aussi être tentés d'avoir des préférés parmi nos enfants, parmi nos petits-enfants. C'est aussi quelque chose que Dieu peut utiliser pour nous aider à avancer avec lui. Et pour bien marquer sa préférence, Jacob offre à Joseph un vêtement particulier. C'est l'uniforme du préféré. Quelque chose qui le met à part. Apparemment, les autres frères n'avaient pas droit à ce genre de vêtements. Alors, pour être juste, Joseph n'a pas choisi d'être le préféré de son père. Ça ne relève pas de sa volonté. Mais probablement, il devait se faire un plaisir de porter cette tunique splendide, ne serait-ce que pour faire enrager ses frères qui l'embêtaient. C'est au départ, ce Joseph, c'est un jeune homme qui profitait du favoritisme de son père. Mais ça, c'était avant. C'était avant que Dieu le prenne en main. Et dans toutes les vies, il y a aussi un avant et un après. Quand on a rencontré le Seigneur, il y a quelque chose qui change. Troisième chose, il était rapporteur, il était le préféré. Mais en plus, le texte semble nous dire qu'il crânait. Il faisait des rêves. On ne peut pas lui en vouloir. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi je ne rêve pas ce que je veux rêver. C'est des choses qui viennent. Après les explications des rêves, le subconscient, etc., qui nous parle, ça c'est hors de propos ce matin, mais Joseph faisait des rêves. On ne peut pas lui en vouloir pour ses rêves, mais il y avait sa façon de les raconter. Et c'est ce qui est souligné dans le texte. J'essaie d'imaginer, il devait venir leur dire à ses frères, mais vous devinerez jamais ce que j'ai rêvé cette nuit. Et puis il rentre dans ces récits où effectivement c'était des rêves qui le mettaient, lui, à la meilleure place. Mais le texte dit, en parlant des frères, ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et à cause de ses propos. Alors, là encore, il faut faire la part des choses. Les frères ont eu tort d'en vouloir à Joseph pour ses rêves. Nous savons, parce que nous avons la suite de l'histoire, que ses rêves venaient du Seigneur. Le Seigneur a montré à Joseph quelque chose qui allait arriver plus tard. C'était des rêves prophétiques. Mais est-ce qu'on peut vraiment blâmer les frères s'ils avaient du mal à supporter ses propos, sa façon de raconter? Parce que même son père, qui est pourtant le préféré, hein, je le souligne encore, son père lui fait des reproches quand il raconte ses rêves, ça, à cause de cette façon de se mettre en avant. Hein, le père a l'air de lui dire, Joseph, je trouve que tu pousses le bouchon un peu trop loin. Alors voilà ce jeune homme auquel on va consacrer plusieurs chapitres dans la Bible. Hein, sa vie est racontée en long. Un jeune homme qui faisait son intéressant, qui frimait, comme on dit. Mais ça, encore, c'était avant. Et ce que nous découvrons dans l'histoire, c'est justement que Dieu a un projet pour Joseph. Et c'est là que ça va changer les choses. Les rêves de Joseph, je vais mettre les images des deux rêves, tirées des deux rêves, on pourrait dire, ces rêves sont le signe que Dieu s'intéresse à Joseph. Dieu lui envoie ses rêves, et ses rêves vont d'ailleurs par la suite être un appui pour lui dans tout ce qu'il va vivre, jusqu'à ce que ses rêves d'ailleurs se réalisent. Le Dieu d'Abraham a des projets pour Joseph. Mais est-ce possible que Dieu s'intéresse à un type comme Joseph, un rapporteur préféré du père, frimeur à ces moments? Eh bien oui, c'est possible. Heureusement pour nous, c'est possible que Dieu peut s'intéresser à n'importe qui d'entre nous et qui s'est intéressé à nous. Et la suite du récit va montrer que le Seigneur avait décidé de se mêler de l'histoire de Joseph. Comme il s'est décidé à se mêler de votre histoire, de mon histoire. Et seulement au départ, pour Joseph, il y avait un très gros problème. Parce que Joseph était enfermé dans son rôle de rapporteur, de préféré, de frimeur. Et une fois qu'on a commencé à jouer ce genre de rôle, il est très difficile d'en sortir. On peut dire qu'à cette époque-là, Joseph était coincé dans sa vie. Comment revenir en arrière? Comment admettre qu'on regrette tout ça? Comment dire qu'au fond, on est malheureux dans cette situation? Parce que je crois qu'au fond, Joseph ne pouvait être que malheureux. Je pense encore à sa situation familiale. Aujourd'hui, on parlerait d'une famille dysfonctionnelle. Hein, c'est le terme qu'on emploie couramment. Tout d'abord, comme je l'ai déjà souligné, dans cette famille, il y avait 4 mères. Un père et 4 mères. Jacob avait 4 femmes. Alors c'est une grande bénédiction d'avoir une mère. Il faut le dire. Et encore plus, une mère aimante. C'est une grande bénédiction. Mais 4 mères. Pas si vous imaginez. Hein. On pourrait dire, une mère, ça va. 4 mères. Bonjour les dégâts. Et effectivement, il y avait beaucoup de dégâts dans cette situation. J'essaie de penser à la vie de cette famille. Dans le camp, quand un enfant criait « Maman !» Il y avait 4 femmes qui sortaient de 4 tentes différentes pour voir si c'était leur progéniture qui était en cause. Et Joseph a vécu dans ce milieu-là, dans ce milieu familial difficile. Il était l'avant-dernier de 12 frères. Pas tout à fait le plus petit, mais presque. Ou plutôt, on devrait dire de 12 demi-frères, puisque comme il y avait 4 femmes, il y avait un peu 4 familles aussi. Il n'avait qu'un seul frère de père et de mère, le petit Benjamin. Mais justement, Benjamin était trop petit pour être d'une grande aide pour Joseph. Et pire encore, la mère de Joseph est décédée après avoir mis Benjamin au monde. Donc, à l'époque de ses 17 ans, Joseph est déjà orphelin de mère. Donc, on pourrait dire qu'il cumulait les difficultés. Il a vécu sa jeunesse dans ce climat de rivalité qu'on a vu dans le texte, d'hostilité de la part de ses frères. Comment allait-il pouvoir sortir de là? C'est la grande question qui est posée dans ce texte. Et évidemment, Dieu seul pouvait faire quelque chose pour le libérer. Et Dieu va libérer Joseph, mais de façon tout à fait paradoxale, pas du tout d'une façon que nous aurions imaginé, certainement. Pas comme ça que j'aurais aimé moi-même être libéré d'une situation comme celle de Joseph. C'est arrivé au point où Joseph a failli se faire assassiner par ses propres frères. C'est la suite de l'histoire. Alors, on peut penser que le père Jacob a fait preuve d'une certaine légèreté lorsqu'il a envoyé Joseph retrouver ses grands frères en pleine campagne, sans témoin, sans tenir compte apparemment de l'hostilité qu'il y avait dans la famille. Et Joseph lui-même ne semble pas avoir pris la mesure de la haine que lui vouaient ses frères. Il arrive au milieu d'eux, on pourrait dire comme une fleur, mais ses frères l'ont vu de loin. C'est ce qui est évoqué dans l'image. Et eux, ils ont cru avoir trouvé la solution à tout ce qui les embêtait dans la vie de leur famille. Voilà le maître rêveur qui arrive, se dirent-ils les uns aux autres. C'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. Mais encore une fois, comme nous le savons, ses rêves venaient de Dieu. Dieu qui s'était décidé à s'occuper de l'histoire de Joseph, mais aussi de l'histoire de ses frères. Donc, en fin de compte, et il y a de l'ironie dans ce que je vais dire, Joseph n'a été que vendu comme esclave. C'est quand même énorme d'être vendu comme esclave, mais c'est mieux que d'être assassiné. Grâce à Judas, qui avait le sens du commerce, les frères ont pu d'un seul coup se débarrasser de Joseph, se venger de leur père, et aussi se faire un peu d'argent. Alors, on imagine difficilement ce que c'est que d'être vendu par ses frères. Ça dépasse l'imagination. C'est plus que désagréable. Vendu et puis emporté vers un pays inconnu. Joseph n'avait jamais été en Égypte. Et il est enlevé de sa famille et envoyé entre les mains d'étrangers pour servir d'esclave dans ce pays d'Égypte. Mais c'est par ce moyen que Dieu a brisé le cercle vicieux dans lequel Joseph était enfermé. C'est extraordinaire de penser que c'est par là qu'il fallait qu'il passe pour sortir de sa prison intérieure. Parce qu'en Égypte, personne ne connaissait sa réputation. Personne ne savait qu'il avait été rapporteur dans sa jeunesse, dans sa famille, qu'il avait été le préféré de son père, etc. Le Seigneur lui offrait un nouveau départ. Une porte ouverte, l'occasion pour lui de découvrir et de connaître le Dieu de ses pères pour lui-même. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que le Seigneur a déjà commencé à se mêler de notre histoire. Sinon, nous aurions trouvé autre chose à faire aujourd'hui. Et notre histoire est comme celle de Joseph. C'est une histoire qui a des hauts et des bas. Nous avons, nous aussi, nos failles et nos faiblesses. Mais ça n'empêche pas le Seigneur de s'occuper de nous. Au contraire. Certains d'entre nous ont peut-être connu des situations familiales compliquées. Il y en a tant. Les familles dysfonctionnelles existent encore. Mais quoi qu'il en soit, Dieu est aussi pour nous celui qui rompt les cercles vicieux dans lesquels nous avons pu nous enfermer, ou dans lesquels nous avons pu nous laisser enfermer. Parce qu'il y a un peu des deux dans l'histoire de Joseph. Hein. On pourrait dire d'une certaine façon, il s'est enfermé, mais d'une autre façon, c'est les autres qui l'ont enfermé dans quelque chose de très difficile à vivre. Et ça reste souvent une réalité dans nos vies. Et la première chose que le Seigneur fait est de nous convaincre de notre besoin de lui. Ce qui nous amène un jour ou l'autre, et tout au début de notre expérience avec Dieu, ce qui nous amène à reconnaître notre besoin de lui. Pas notre besoin de bricoler des solutions comme on est si prompt à le faire parfois, mais besoin de nous en remettre à notre Créateur qui nous aime et besoin de sa grâce, besoin d'un nouveau départ, besoin d'une nouvelle naissance, hein, c'est ce que la parole nous enseigne dans le Nouveau Testament. Et alors le Seigneur ouvre notre cœur pour comprendre que pour les besoins fondamentaux de notre être, besoin de paix, besoin de direction, besoin de pardon, la réponse ne peut venir que de Jésus. De Jésus, il est écrit, pourtant, certains pourtant l'ont accueilli, c'est dans l'évangile de Jean, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Le Fils de Dieu s'offre à nous comme le grand frère, qui est tout ce que les grands frères de Joseph, les nôtres, n'ont pas été. Ruben, le frère aîné de Joseph, avait bien essayé de le sauver, mais il a échoué. Jésus a pleinement réussi sa mission en donnant sa propre vie pour nous racheter de la mort que nous méritions. Et là, il a brisé un premier cercle vicieux dans lequel nous étions enfermés, le cercle de notre rébellion contre Dieu, hein, avant de le connaître, avant de découvrir au pied de la croix la grâce de Dieu. Cette rébellion qui est ce qui sépare les êtres humains de Dieu et qui se manifeste le plus souvent aujourd'hui dans notre culture, non pas par une rébellion ouverte, mais par une indifférence sournoise. Mais l'indifférence à l'égard de Dieu est une forme de rébellion. Et c'est de cela que le Seigneur veut sauver ceux qu'il touche avec le message de l'Évangile. Paul écrit dans Romains 8, 29 que Dieu a voulu que Jésus soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Dieu a voulu que Jésus soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Le Seigneur, quand il a brisé le premier cercle vicieux de notre rébellion, c'était pour nous donner une nouvelle famille. Par la suite, parce que la vie chrétienne est une longue suite d'expériences et d'événements, le Seigneur nous fait prendre conscience d'autres besoins. Et parfois d'autres cercles vicieux, hein, d'autres choses qui coincent, d'autres choses qui nous empêchent d'avancer. Le Seigneur sait, quand il nous sauve, qu'il a beaucoup de travail à faire dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, qu'il doit reprendre nos habitudes, qu'il doit toucher aussi nos façons de penser, de réagir. Parfois, il y a un problème avec la colère, parfois avec l'amertume, beaucoup d'autres choses que le Seigneur, dont le Seigneur va s'occuper. Et aujourd'hui, on pourrait parler aussi des addictions, hein, des choses qui nous saisissent et qui nous empêchent, hein, d'être pleinement libres dans notre marche avec Dieu. Un petit dessin humoristique Ça date un peu, si vous regardez le modèle de télévision qui est dans l'image, mais ça fait réfléchir. Nous vivons dans une culture qui ne cesse d'inventer des moyens de nous distraire de l'essentiel. Hein. C'est l'industrie du divertissement. Le divertissement est fait pour nous détourner de l'essentiel, pour manger le temps que nous aurions pu affecter à notre relation avec notre Père Céleste, avec nos frères et sœurs, et pour nous détourner aussi du témoignage que le Seigneur veut que nous portions. Mais si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Et le Seigneur a une œuvre de libération qui est en cours pour chacun de nous. Et c'est lui qui nous montre en ce moment, c'est ça que je veux travailler avec toi et qui nous mène en avant. En guise de conclusion, donc, si on est honnête, quand Joseph est arrivé en Égypte, il n'était pas au bout de ses peines. La suite de l'histoire le montre bien. Il était plutôt au début d'un long apprentissage qui lui apprendrait à voir la main de Dieu dans tout ce qui lui arrivait. Et c'est quelque chose qu'en tant que chrétien, nous devons aussi apprendre et réapprendre. Enfin, je parle pour moi, mais on a besoin, jour après jour, de nous rappeler que Dieu, sa main est là dans tout ce qui nous arrive. Alors, après de longues années, Dieu a fait à Joseph la grâce de retrouver sa famille, de retrouver son père, de retrouver ses frères, et même de leur sauver la vie. C'est une très belle histoire, avec une fin heureuse, mais parce que Dieu était là, et parce que sa grâce a agi. Mais entre-temps, entre ce moment où il arrive en Égypte et le jour où il retrouve sa famille, Joseph allait vivre des choses très difficiles. Il allait découvrir dans ces choses difficiles que Dieu était vraiment avec lui. Alors il sera injustement accusé, il sera jeté en prison. Celui qui aurait pu le faire sortir de là va l'oublier. Mais Dieu était là et Joseph a appris à s'appuyer sur lui. Je pense que Joseph a dû entendre parler de Dieu dans sa jeunesse. Le Dieu d'Abraham était intervenu dans la vie de Jacob, le père. Et je pense qu'on devait en parler quand même, d'Abraham, d'Isaac, et puis de l'expérience de Jacob aussi. Joseph, en Égypte, allait devoir apprendre à vivre lui-même avec ce Dieu dont il avait entendu parler. Un Dieu grand, très grand, mais un Dieu proche, tellement proche. Et jour après jour, il a appris à compter sur ce Dieu-là. Et ce qui est intéressant, vous pouvez lire pour vous-même la suite, c'est que revient comme un petit refrain, l'Éternel était avec Joseph. Et ceux qui étaient autour de lui reconnaissaient que l'Éternel était avec Joseph. C'est ça qui est fort. Il y avait un témoignage parce que Dieu était là avec lui. C'est un grand privilège d'avoir des parents qui connaissent le Seigneur et qui parlent à leurs enfants de lui, de son amour, de sa grâce. Des parents qui nous apprennent que nous sommes des pécheurs et que nous avons chacun besoin de saisir la grâce. J'en sais quelque chose parce que le Seigneur m'a permis de naître dans une famille où mes deux parents l'avaient déjà rencontré avant que je vienne au monde. Mais quand même, il vient un jour où il faut prendre position soi-même. J'ai été touché un jour par un prédicateur qui a dit « Vous n'irez pas au ciel dans les valises de vos parents. » Et à un moment donné, on doit prendre position, se déclarer pour Jésus, publiquement, se mouiller, comme on dit, dans les eaux du baptême, hein, et apprendre à le connaître pour nous-mêmes. Et c'est ce que nous devons désirer pour nos enfants, et c'est ce qu'il faut demander quand on prie pour les enfants de l'Église, hein, qu'ils en viennent un jour à ce moment où ils peuvent se lever et dire « Je veux suivre Jésus-Christ. Je le veux pour Sauveur et pour Seigneur. » C'est aussi une grande responsabilité d'être parent, hein, ou grand-parent aussi. C'est pas la même chose, mais on a aussi un rôle à jouer dans ce cheminement des enfants vers le Seigneur. Et Joseph était en chemin, et le Seigneur a commencé, là, dans ce que nous avons vu ce matin, à vraiment le pousser en avant pour qu'il s'ouvre à la présence de ce Dieu vivant. Donc, quand nous avons besoin d'un nouveau départ, et ça arrive dans la vie qu'on se laisse aller, on se laisse vivre, comme on dit parfois, et le Seigneur doit venir nous dire, mais lève-toi, en avant. Mais quel que soit le nouveau départ dont nous pouvons avoir besoin, quel que soit peut-être le cercle vicieux dans lequel nous nous sommes enfermés de nouveau, celui qui a pris notre histoire en main a la réponse, est la réponse. Il a commencé une œuvre dans notre cœur. Pour certains, ça fait des années que le Seigneur a commencé cette œuvre. Cette œuvre continue aujourd'hui. On ne peut jamais dire, bon, ça y est, je connais assez le Seigneur, j'ai assez assimilé de sa parole pour pouvoir maintenant me reposer. Non, le Seigneur est encore à l'œuvre et il a encore des projets pour nous. Il veut encore continuer à nous transformer à l'image de son Fils. Alors, c'est bien de louer le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait dans notre vie. C'est bien de prendre de temps en temps un petit moment juste pour penser à tout ce qui s'est passé déjà entre lui et nous et de le remercier. Mais nous pouvons aussi le louer pour ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il veut faire aujourd'hui. Et encore, nous pouvons déjà le louer aujourd'hui pour la grâce encore à venir. Parce que nous ne sommes pas au bout de notre découverte de cette grâce du Seigneur. Et si donc, je répète ce verset, le Fils vous libère, et il veut le faire, c'est ça le plus beau. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Inclinons-nous un instant dans la prière. Seigneur, merci pour l'histoire de Joseph, merci pour ta parole, merci pour ta main dans la vie de ce jeune homme qui a eu des débuts difficiles et pourtant qui est devenu un instrument entre tes mains pour sauver toute sa famille d'une famine qui menaçait même leur existence. Seigneur, merci parce que toi, tu connais la fin depuis le commencement. Tu sais où tu veux en venir avec nous. Tu sais ce que tu veux faire avec nous, par quel chemin tu veux nous faire passer, par quelles expériences nous devons aussi passer pour mieux comprendre ta présence de tous les jours. Que comme tu as été avec Joseph, tu seras avec nous. Aide-nous, Seigneur, à saisir cette vérité, cette réalité, et à la vivre. Viens nous te rendons grâce pour toute ta bonté, pour chacun de nous. Merci d'être venu nous chercher, merci d'avoir touché notre cœur, d'avoir montré notre besoin, de nous avoir sortis de notre rébellion, de notre indifférence à ton égard, pour découvrir un amour immense que nous n'avons pas fini de sonder. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen.